Bienvenue dans le podcast Sur la Terre des Hommes. Pour profiter au maximum de l'expérience du podcast, prenez quelques minutes pour aimer notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter au Sur la Terre des Hommes Podcast et sur Instagram au Sur la Terre des Hommes Podcast. Si vous possédez un iPhone, prenez une minute pour nous laisser un avis. Ainsi, vous allez faire grimper le podcast dans le moteur de recherche. Finalement, si vous voulez encourager Sur la Terre des Hommes et obtenir des épisodes exclusifs, vous pouvez contribuer monétairement sur la plateforme patreon.com. patreon.com. Recherchez Sur la Terre des Hommes et pour seulement 2$ par mois, vous y aurez droit. Le podcast peut désormais débuter. Bienvenue sur la Terre des Hommes. Cet épisode de Sur la Terre des Hommes est présenté par Construction Rivard. La rénovation et la construction, ça passe par la science du bâtiment et de vraies maisons éco-énergétiques. Un des seuls en Abitibi-Témiscamingue qui construit des maisons Nouveau Climat est prêt net zéro. De la fondation à la finition d'escalier, ils font tout. Construction avec un S, rivard.com ou contactez-les au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 196 de Sur la Terre des Hommes. Un épisode spécial cette semaine, on ne parlera pas d'histoire, ni d'actualité, ni de guerre. Oh! Ça, je le garde.
C'est excellent.
C'est excellent. Alors, vous avez entendu Anthony.
C'est fait.
Oui, qui a échappé son cellulaire. Alors, comme je disais, on va pas parler d'actualité ni de, c'est ça, de guerre ou d'histoire. On y va plus simplement. On y va dans la bonne humeur pour parler des séries éliminatoires. Et je sais qu'il y a plusieurs abonnés de Sur la Terre des Hommes qui aiment aussi le hockey. Et puis, vu que c'est mon podcast, ben, je décide qu'est-ce que j'en fais. Et puis, c'est pour ça, c'est pour ça qu'on va parler de hockey ce soir. Anthony Pomerleau, dit El Paumé, comment vas-tu?
Hey, je me porte à raveux, mon cher Jérémy, et toi?
Ah, super, super. Écoute, il fait chaud, il fait beau.
Oui.
La roulotte est ouverte.
Oui, on a vu ça,
oui.
Avec les ouailles et compagnie.
Absolument, alors tout va bien. Regarde, il n'y a rien qui va mal, mon cher.
Ah, merveilleux. Le port du masque qui s'en va de nos écoles.
Oui, aussi.
Certains pourraient dire enfin, écoute, j'avais beaucoup de beaux sourires aujourd'hui. C'était notre première journée. Puis je pense que tu sais, les jeunes, ils le faisaient pour les bonnes raisons. Puis là, ben,
ils ont été très contents
de pouvoir passer à autre chose. Ils ont été très patients.
Ouais, 2 ans pour des adolescents. Je n'ose même pas imaginer comment j'aurais réagi si on m'avait demandé, quand j'étais adolescent, de porter un masque pendant 2 ans. Alors bravo à ces jeunes-là. Si vous êtes un ou une jeune au secondaire, même peut-être au primaire, qui sait, si Elisabeth nous écoute, mon cher Mathieu, bravo à vous tous et vous toutes, oui, d'avoir accepté ce petit ce masque, dans le fond, d'avoir accepté cette contrainte pour le bien de la population. Alors bravo. Mathieu Lauzon, comment vas-tu?
Hey, ça va super bien. Hey, ben, note en passant, j'ai vu le commentaire de Simon Robitaille, c'est 3 goalers qui nous parlent. Est-ce qu'on a une fraternité de Cerbère, nous 3 ensemble?
Je serais tellement heureux de dire oui, Mais je suis seulement, ben, dans le fond, je suis cinquième goaler sur demande dans, ouais, dans une ligue de hockey-ball. Alors, je ne suis pas un gardien. Malheureusement, je ne sais même pas breaker au hockey sur patin. Alors non, je ne suis pas un gardien, mais j'adore le hockey.
J'en suis un gardien de but. Maintenant, je me suis inscrit en entraîneur de gardien de but.
Oui.
Avec une équipe junior aussi là, dans le secteur. Fait que, j'adore cette position. Mettons que c'est pas mal mon petit pain préféré de hockey, la partie des gardiens de but.
Pour ma part, je me définirais comme le Michel Bergeron du groupe. Alors, c'est comme ça.
Parce que t'es pris du cœur, bon, c'est
ouais, pas c'est ça que j'allais dire. Tu vas péter une crise.
Un peu, oui, j'ai fait une péricardite en 2016, mais voilà, ah. Quand même. Alors, messieurs, merci d'avoir répondu à cette invitation tardive, je dois le dire. C'est aujourd'hui, sur l'heure du souper, que je vous ai contacté pour savoir si vous étiez intéressé à faire un épisode sur les séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2022. Et puis, j'ai été très heureux d'avoir deux amis avec qui parler de hockey ce soir. Alors, merci à vous.
Un plaisir.
Yes. Par quoi voulez-vous commencer, messieurs? Parce que là on va parler des séries, certainement. Mais il y a eu, on pourrait parler aussi d'autres petits sujets, oui, dis-je bien, avant d'entamer le steak. Premièrement, est-ce que vous êtes fan du Canadien de Montréal ou on passe au prochain point?
On peut en parler.
Ouais.
Et ma casquette des Canadiens.
Ouais, c'est ça.
Un peu moins fier ces temps-ci, mais un fan pareil.
Ben justement, parlons de...
Les bons temps comme les mauvais temps.
Exactement. Ben c'est ça, un vrai fan. Hein. Je suis pareil. justement, parlons-en. Quelles sont vos impressions sur cette saison désastreuse, on va le dire, du Canadien de Montréal? On s'entend, ils ont fini 32e et quand même de loin. Comment vous avez trouvé ça cette saison-là? Qui est pleine de rebondissements, on s'entend. Là. On peut parler du fait qu'à un moment donné, il y avait un alignement quasiment pas légal contre les Flames. Pas les Flames, mais les Panthers de la Floride à un moment donné. Il y avait, je pense, 15 gars sur le banc. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match-là. Je crois que c'était au mois de janvier ou fin décembre. C'était vraiment n'importe quoi. Je pense que c'était le match... du 31 décembre. Coach congédié. Après ça, il y a eu aussi le DG congédié. C'était un roman savon, littéralement.
Ouais. Je peux prendre...
Oui, vas-y.
All right. Écoute, on sortait d'une finale de Coupe Stanley, d'une saison très, très, très improbable. De deux étés hein, derrière l'autre là, assez intense au niveau hockey parce que les séries de l'année d'avant dans la bulle avaient été quand même on avait eu le droit à vraiment des belles performances du Canadien et entre autres de notre Cerbère Carey Price. Je vous dirais là, quand on a commencé à voir que son retour s'en venait de moins en moins probable et régression dans la remise en forme ou la remise en force de ce genou-là. On s'est rendu compte assez rapidement et probablement Dom Ducharme le premier que ça allait être réellement une saison difficile. On se souvient l'année que Mike Condon avait été le gardien numéro un. Il n'avait pas mal fait dans les circonstances à l'époque, je me rappelle, le cher monsieur Condon. Mais c'est la saison qu'a mis... la dernière saison de Piquet-Souban dans l'uniforme du Canadien. Donc, il y avait des choses qui avaient brassé à cette époque-là. J'ai comme l'impression cette année, dès l'automne, qu'on allait avoir une saison similaire parce qu'il allait avoir quand même des revirements peut-être spectaculaires ou des situations, des belles histoires. On se souvient, à l'époque, ça avait été Alex Galchenyuk qui avait compté 30 buts. Il ne s'est jamais rapproché de ce niveau-là par la suite. Si on regarde cette année, je crois qu'on a vu des belles choses des jeunes. Caulfield, Suzuki, Romanov, nommé rien que ces trois-là, je crois que l'avenir est rose vraiment au niveau des jeunes vétérans. Puis j'étais prêt à accepter quand j'ai vu vers où ça allait, puis que Price n'en revenait pas, Weber c'était réglé, on ne la voyait pas, puis qu'on était rendu vendeur, on se débarrasse de Chariot et compagnie. J'avais quand même accepté là, le fait. Ben, ça fait longtemps que je l'acceptais, ça fait longtemps que je l'aurais fait. Moi, c'était. Ouais. la table rase-là. Mais quand j'ai vu qui ont mis en place, le sérieux des bonhommes qu'ils ont mis là, puis qu'ils n'épargnent aucun détail, là, ils ont encore engagé dernièrement un pro des statistiques avancées, Christopher, je ne sais plus trop qui, là, j'ai vu ça passer.
Chris Boucher, non, hein?
C'est vraiment quelque chose, je crois, qui est encourageant, même si on risque encore d'avoir une saison difficile l'an prochain.
Absolument.
Carey Price ne sera plus jamais le gardien qu'il a été. Est-ce qu'il va garder plus que 35 matchs l'an prochain? Il va s'en garder un seul? On ne sait pas. Fait que, je te dirais, c'est un peu ça, moi, ma vision. Je suis quand même emballé. On a gagné la loterie, sérieusement. Tu sais, t'as un jeune à Tantaise, Ryan O'Reilly ou Patrice Bergeron là, à ta portée. C'est vraiment, tu sais, ça regarde vraiment, vraiment bien de ce côté-là. Je pense qu'au niveau au centre, on n'aura jamais été aussi fort au centre. Si la logique est respectée, on s'entend bien que le Canadien repêche M. Wright. Donc, voici
en parlais
3 minutes et quart environ mon résumé de 21-22 du Canadien et comment je vois ce qui s'en vient.
Et il faut dire que, parlons premièrement, juste faire un petit aparté sur Chris Boucher, qui a été engagé, qui est une sommité des statistiques avancées, qui a travaillé pour Sports Logic, qui était à l'emploi des Sharks de San Jose, si ma mémoire est bonne, et le Canadien est allé le chercher. Pour moi, la saison 21-22, écoutez, ça a mal commencé. Une victoire, je crois, à leurs 10 premiers matchs. Tu voyais que ça allait être la grosse misère noire. Price, on nous a dit qu'il reviendrait après quelques semaines. On disait qu'il va venir au courant du mois de novembre. N'est jamais revenu de la saison.
Excusez-moi, presque.
J'ai un chat dans la gorge. Ou presque, oui. Il est revenu en fin de saison. Mais ça nous a tout pris pour savoir qu'est-ce qui se passait avec Carey Price. Finalement, il a fini sur la liste, pas la liste, mais dans le programme d'aide pour les joueurs. Le genou complètement détruit. 3 remises en forme pour son genou. Il devait souffrir le calvaire, ce gars-là. Ça a été incroyable. T'sais, aussi, comme on a dit, le congédiement, premièrement, de Marc Bergevin. On a embauché Kent Hughes, qui est un agent de joueur, okay, qui n'a pas d'expérience, mais c'est bizarre, mais cet homme-là, je suis confiant. Je vais être prudent, là, mais je suis confiant avec Kent Hughes comme DG du Canadien. Engage par la suite Martin Saint-Louis, qui lui non plus n'a aucune expérience dans le coaching. À première vue, quelqu'un qui se réveille du coma après 2 ans, il se dit « qu'est-ce qui s'est passé? » pour que Martin Saint-Louis soit entraîneur-chef, puis Kent Hughes, DG. Mais quand même, parlons un peu de Martin Saint-Louis. Est-ce que vous êtes confiant, vous, avec Martin Saint-Louis comme coach? Est-ce qu'il devrait s'entourer l'année prochaine d'un coach associé d'expérience? Comment vous voyez ça pour Martin Saint-Louis?
Personnellement, je pense que oui, il devrait s'entourer. Il y a des bons assistants présentement, mm-hmm. Luke Richardson et compagnie, mais je pense qu'il manque peut-être une ou deux personnes. Là, m'excuse, le nom m'échappe, là, celui qui est en charge là, de supériorité numérique. Là.
Alex Burroughs.
Ouais, c'est ça. Lui, je pense pas qu'il soit de retour l'année prochaine. Mais par contre, ce serait bon de le remplacer par peut-être quelqu'un qui... un autre coach d'expérience qui pourrait venir l'appuyer dans les moments où ce que tu sais, juste pour le stabiliser, parce que oui, il a des bonnes idées, il apporte un vent nouveau. Je pense que sa motivation et sa feuille de route font de lui une personne dont les joueurs respectent, un coach qui a joué la game, qui a surmonté les obstacles, l'adversité. Mais par contre, il aurait besoin de quelqu'un avec un peu d'ancienneté, un peu d'expertise pour venir un peu appuyer quand
il apporte des idées, ou
peut-être
peu,
le conseiller.
Là.
Oui, c'est ça, le conseiller dans les temps peut-être un petit peu plus difficile, parce que je pense que c'est là que, tu sais, où ce que Dominique Ducharme, ça a comme mal viré, c'est que avec la perte là, de Price, Perry, Weber, Dano, tu sais, ces vétérans-là qui comprenaient son fameux système que Petrie ne comprenait pas, Ben, c'est parce que, tu sais, c'était des coachs, c'était un peu des Reggie Dunlop, là, tu sais, c'était des coachs à la glace, tu sais.
Ouais.
Fait que eux autres, ils étaient capables de transporter le message de Ducharme, puis de le transmettre aux joueurs, puis de faire sûr que tout le monde, que ça gèle, là, puis que ça, ouais, ça marche ensemble. Mais là, ces joueurs ne sont plus là. Mais il y a un autre facteur aussi, font en sorte qu'il y a une équipe décimée. Mais par contre, tu sais, Ducharme, il manquait ce bagage d'expérience-là, ce poids pour venir.
Malheureusement.
Oui, ouais, c'est ça. Puis, à quelque part, tu sais, c'est un excellent coach, là. Tu sais, Ducharme, j'ai tendance à dire qu'il y a un peu, tu sais, le principe de Peter là-dedans. Tu sais, des fois, tu peux atteindre de m'amener un niveau où ce que tu n'es pas prêt à assumer. On dirait par la force des choses, tu gravis les échelons d'une entreprise, tu arrives à un certain niveau où ce que tu n'es pas prêt ou tu n'es pas apte à pouvoir assumer entièrement les responsabilités du niveau que tu as atteint. Puis
il était encore
meilleur dans les niveaux où tu étais précédent. Puis je trouve que Ducharme, il était un excellent assistant, puis il apportait des bonnes valeurs, mais comme assistant coach, il était définitivement pas prêt, là, je pense.
Dominique Ducharme, dans ma tête, était encore au moment de son congédiement dans son année coach recrue. Okay? Moi, je le considère encore comme ça. Comme tu as si bien dit, Mathieu, avec ses courroies de transmission qui ont disparu du jour au lendemain, lui, il s'est réveillé au mois de septembre au camp d'entraînement. Pas de Price, pas de Weber, pas de Perry, pas de Dano. Tous ceux qui faisaient la courroie de transmission, peut-être, je ne sais pas Dano, là, mais tu sais, au moins Price, Weber, Perry, entre lui, le coach, et ses joueurs, il n'était plus là, là.
Non, oui, parce que Ducharme, là, il était déjà, tu sais, assistant coach depuis quelques saisons.
Oh, il connaissait Dominique Ducharme, ben oui.
Ce message-là, il portait déjà, c'était lui qui allait au tableau avec ses X et ses O. Mm-hmm. C'est lui qui faisait les drills de back-check, les drills de zone neutre, les drills de forecheck. Fait que c'est vraiment, c'était juste une continuité. Fait que vous avez raison, je trouve ça vraiment bon. La courroie de transmission, ils ont perdu. C'est exactement ce qui s'est passé. Puis c'est exactement ce qui fait le succès de Martin Saint-Louis présentement avec ses jeunes attaquants qui ont un potentiel offensif vraiment solide et qui s'expriment. On a parlé tantôt de Caulfield, Suzuki, mais moi, j'ai une découverte sur Aaron Pitlick. Qui est un joueur de top 9 que tu peux mettre partout. C'est le Byron en plus talentueux offensif.
C'est un nouveau,
tu sais,
Byron.
C'est une nouvelle histoire à la Byron.
Ouais.
C'est un gars hyper utile. J'ai hâte de voir ça en série, un gars comme ça, parce que lui, il va jouer contre les petites lignes au bord en série, puis il va peut-être nous faire des productions intéressantes. Mais je reviens un peu à ce que Mathieu dit. Moi aussi, je crois qu'il a comme plafonné à un certain niveau d'homme du charme. Puis malheureusement, il aurait dû passer son tour, mais il ne pouvait pas le savoir. Puis il fallait qu'il l'essaye aussi pour se prouver. Ouais. Mais avec du recul, peut-être qu'il se dit, bon, ben, je suis peut-être un assistant coach. Je vais peut-être continuer à me chercher de la job comme assistant coach.
Mais c'est là l'importance que je trouve apporter, avoir un coach, un assistant coach avec Saint-Louis qui a de l'expérience.
Ouais.
Parce qu'il arrive un autre événement de la sorte avec Saint-Louis, ben, il va avoir quelqu'un d'aiguillé à côté pour l'appuyer puis donner les outils nécessaires pour faire face à cette situation. Ce que je trouve peut-être que Dominique Ducharme n'avait pas au moment que lui a fait face à cette situation.
Peut-être que...
Alain Vigneault est disponible, puis Bob Hartley s'en va de la Russie. Je dis ça comme ça.
Mais parlons, j'allais faire une comparaison entre Alain Vigneault, le parcours d'Alain Vigneault et le parcours de Dominique Ducharme. Souvenez-vous, Alain Vigneault se fait congédier par le Canadien quoi en 2001? Si ma mémoire est bonne, 2001, 2002, quelque chose comme
ça. C'est après Claude Julien, je pense.
Après Terrien.
Après Terrien, OK.
Dans le fond, Vigneault, il a pris la place de Mario Tremblay.
Ah oui, c'est ça, oui.
Ah, boy.
Puis c'est Michel Terrien qui a remplacé Vigneault.
Exact.
Puis c'est Claude Julien qui a remplacé Terrien. Et Carbonneau. Retour de Jean-Martin.
Mais tu sais, ouais. Mais tu sais, pour dire que la comparaison... Tu sais, pour dire que peut-être...
Randy Cunningworth.
Oui, Randy Cunningworth. Ouais.
Mais peut-être que, peut-être que le chemin que doit emprunter Dominique Ducharme pour revenir à la Ligue nationale est le même chemin de gravel qu'Alain Vigneault, c'est-à-dire continue à coacher, retourne dans LHGMQ. Continue, puis à un moment donné, tu vas te faire rappeler par la Ligue américaine, tu vas remonter dans la Ligue nationale. C'est un, comme tu as dit, Paumé, c'est un bon coach, là, Dominique Ducharme, là, mais c'est ça, il n'y avait plus ses vétérans. Mais Dominique Ducharme dans une équipe l'année prochaine avec, tu sais, avec des vétérans solides, puis je suis certain que ça fait un job. Là.
C'est qui le coach des Mighty Ducks présentement? Là,
Il s'est fait clairer aujourd'hui, c'était Pete DeBoer.
Non, ça c'est Knights. C'est Vegas. Les Ducks d'Anaheim, c'est... parce que lui, il a coaché avec Edmonton pendant une saison de misère. Les gens jetaient leur gilet.
C'est lui qui a décroché les cadres à Edmonton.
C'était pas lui qui avait coaché à Buffalo aussi, là?
Je pense pas qu'il a coaché à Buffalo. Je pense qu'il a juste coaché à Edmonton, puis ça avait foiré, là. Jetait leur gilet... Ouais. Leur gilet à terre. Puis lui, tout, il est reparti comme il a disparu. Il a été coaché dans Junior et dans la Ligue américaine.
Dallas Eakins, c'est ça.
Puis là, il est revenu avec Anaheim, puis il a très bien fait là, avec l'équipe qu'il avait. Là, ça a été quand même très bien. Fait que, tu sais, il y a juste l'orgueil qui peut t'empêcher de prendre des pas de reculons pour mieux avancer par après. Fait que, je suis convaincu que Dominique Ducharme
va
prendre un peu de temps pour que la poussière retombe. Puis ça a probablement été dur émotionnellement, psychologiquement sur lui. Mm-hmm. Fait que le temps qu'il se refasse une santé mentale. Puis après ça, ben de retourner coacher, puis se retrousser les manches, puis pouvoir remonter. Là.
Absolument.
Oui, parce que Dallas et Kings, avant d'être dans la Ligue nationale, il y avait 584 matchs dans la Ligue américaine avec les Toronto Marlies. Puis par la suite, c'est ça, il a retourné à San Diego en 2019.
C'est ça.
Pour revenir, là, puis être à la tête des Ducks. Une jeune équipe qui est en pleine transition, capitaine qui s'en va. C'est des gros moments présentement. Il y a des jeunes qui vont reprendre du leadership. Là, je pense entre autres à Comtois et les excellents choix au repêchage des dernières années aussi. Mais pour venir justement, là, peut-être boucler un peu la boucle du Canadien, parce que je pense qu'en ce moment, ce qui se passe au niveau des playoffs m'interpelle beaucoup plus, peut-être pour une discussion, étant donné qu'on va avoir des match-ups incroyables en deuxième ronde. Et donc, pour closer un peu là-dessus, puis je pense juste que ça vaudrait la peine de faire de quoi, peut-être juste plus pour le repêchage, puis en jaser plus là. Moi, je suis vraiment, vraiment emballé et je suis dans le bandwagon Shane Wright. Je capote qu'on ait un jeune brillant comme ça à notre portée. Puis écoutez, là, ça peut être rapidement une production similaire à Suzuki. C'est sûr, ça va dépendre avec qui joue. Mais un gars intelligent comme ça, plus qu'il va jouer avec des gens talentueux, meilleur il va être et plus les points vont apparaître sur le tableau. Donc, c'est vraiment dans tous les sens du terme. À l'école, c'est un gars qui n'a pas rien en bas de 90. C'est vraiment c'est un gars sur qui tu peux appuyer une franchise. Peut-être pas au niveau d'entraîner l'équipe et tout, mais un leader que tu sais qui va jouer son rôle. Ça arrive vraiment au bon moment dans ce groupe de jeunes-là. Puis ça, je parle juste du first pick overall. Je parle pas de l'autre pick de première ronde et de tous les premiers picks de chaque ronde pour en faire 11 ou 12. Fait que, comme je te disais tantôt, à moins que Mathieu ait de quoi ajouter là-dessus, je pense que rien que pour le draft, on pourrait faire un épisode.
Je veux juste dire que Benoît Brunet disait, puis en plus, c'est un gros bonhomme.
Oui, ben c'est une très bonne idée parce que le repêchage... Le repêchage est après justement la saison. Alors, cet été, on va faire un épisode pour repêchage. Peut-être,
il a quand même fait 14 points en 5 matchs là, dans le tournoi l'année passée. Là. Mm-hmm.
Sa deuxième moitié de saison est incroyable. Il a commencé un petit peu plus qu'un point par match, mais il a fini ça en force avec 94 points en 63 matchs. Il a 18 ans.
C'est
un kid, il sort du secondaire.
Et puis, faut pas oublier les gars, faut pas oublier que Shane Wright et tous les joueurs de la OHL ont été durement touchés par les confinements pendant la pandémie. Complète. Il a manqué une saison complète. Shane Wright, il n'y a que du beau, je crois, qui peut arriver avec ce jeune-là. Alors, on va voir ça cet été pour un épisode spécial repêchage. Peut-être essayer de trouver un expert un peu. Là. J'aimerais ça avoir un expert de repêchage qui connaît tous les joueurs, peut-être les 15 premiers joueurs de la première ronde, à moins que Paumé, Mathieu, vous me dites « Ah oui, je connais », non?
Ben moi, je pourrais dire, quand Marc-André Caron aura fini de faire ses devoirs sur le prochain repêchage, ça serait un pas pire stade à inviter.
Ah ben, j'aimerais essayer de parler, ça fait 2 ans que j'ai pas parlé. Alors,
oh mon doux Seigneur!
Je sais pas s'il se souvient de moi. j'ai écrit sur Messenger puis je pense qu'il se souvient plus de moi. Mais on va voir ça. Alors, messieurs, allons-y avec le premier tour qui vient de se terminer. On va y aller quand même rapidement. Okay? Je vous nomme les séries qui ont eu lieu dans le premier tour. Et vous me dites simplement si c'était votre choix ou si vous n'avez pas fait de bracket ou de prédiction. Juste me dire si vous y avez pensé. Alors, la première série, Caroline-Boston. Si je commence avec Mathieu. Yes. Caroline-Boston. Caroline a gagné.
Oui. Puis je m'attendais que ce soit serré. J'ai pensé que Caroline était pour gagner. Okay. Mais j'ai eu un doute parce que là, il y avait Anderson qui était blessé, puis Ranta, il n'était pas sûr de commencer là, au début là, pour les séries. Là, j'ai eu un doute. Mais c'est parce que le problème avec Boston, c'est qu'ils ont une ligne. C'est la Perfection Line qui sont là, puis ils n'ont pas vraiment personne d'autre. Puis là, tu partais avec des gardiens inexpérimentés des deux bancs. Tu sais, Ranta, il n'y a pas tant d'expérience dans les séries que ça.
Il n'y avait aucune victoire en série, Ranta, avant d'arriver.
Ouais, ok, bon, ben c'est ça. Puis c'est quoi, Kochetkov ou quelque chose comme ça, là, son backup. Puis là, bon, ben t'as Allmark et Swayman. Fait que je pense que s'il aurait commencé avec Swayman de la manière qu'il a gaulé les derniers matchs, il aurait peut-être Boston, il aurait eu une chance de edger Caroline. Mais moi, ma logique a été respectée. Là, j'avais pris Caroline, mais j'ai été jusqu'au bout. Hein?
J'avais pris Caroline en 6. Et puis, il y a des preuves de ce que je vais dire ce soir. Il y a un podcast qui s'appelle « Le podcast de l'Est » avec mes élèves que je fais à mon école. Où est-ce qu'on a fait ça il y a 2 semaines? Alors moi, j'avais dit Caroline en 6 et puis ils ont gagné en 7. Pour moi, toi, Caroline Boston, qu'est-ce que tu en avais pensé?
J'avais Caroline.
Aussi, oui.
Si je me souviens bien, là, je voyais ça en 7. Parce que je m'attendais à ce que Boston soit vraiment coriace. Oui, au niveau offensif, tout est concentré presque sur le même trio. Mais au niveau des minutes que les défenseurs sont capables de jouer à Boston, puis c'est dur en série jouer à Boston. Donc, je me disais qu'ils pouvaient surfer un peu là-dessus. Mais même malgré le fait que les gardiens, là, ça jouait un peu à la chaise musicale, là, dû aux blessures, etc., avec les Hurricanes. L'équipe ajoute tellement bien dans toutes les zones que vous voyez, là, il y a eu un gardien un peu nowhere qui a embarqué là, puis ils ont continué de gagner. Fait que, ben, pas un peu nowhere du sens que le gars, il est quand même rendu à la Ligue nationale. Il est capable de garder les buts.
Tout est relatif. Hein?
Tout est relatif, on s'entend, mais on n'a pas vu ça venir. Donc, pour l'instant, j'ai pas fait le tour de l'état de santé de leur gardien. Je sais pas si ça regarde pourquoi pas en deuxième ronde. Je sais pas, Mathieu, est-ce que tu as entendu quelque chose de ton côté?
Moi, je pense pas qu'Anderson est de retour, là, honnêtement, là, mais j'ai pas eu de nouvelles. Là, j'ai pas checké, mettons, aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'il y en a.
J'ai pas fouillé non plus pour ça. Donc, je crois que la logique était respectée. Puis, je trouve que j'ai pas regardé les stats au niveau là, des power play, mais je sais que la Caroline a quand même est capable vraiment de bien se défendre. Fait que j'ai l'impression que si Boston était indiscipliné par moment, ça a dû leur coûter cher.
Une des équipes, la Caroline, les plus équilibrées de ces playoffs-là.
Bien coaché aussi.
Ils ont Kéké et Domi.
Hey, Max Domi qui est sorti de nulle part au 7e match.
Ben oui, absolument. La deuxième série, on avait Floride-Washington. Moi, j'avais dit la Floride en 7 et c'est exactement ce qui s'est passé. Pour moi, toi.
C'est en 6?
C'est en 6. Ah, c'est en 6, excusez-moi, je me trompe de série. Voilà, en 6. Et puis moi, j'avais dit en 7. Alors, voilà. Mais ils ont gagné la Floride. Paumé, je vais commencer avec toi. Qu'est-ce que tu avais dit de la Floride contre les Capitales?
Je voyais la Floride gagner plus rapidement que ça parce que devant les filets à Washington, c'est un gros point d'interrogation. Ouais. Depuis que Braden Holtby, après leur conquête de la Coupe Stanley, ils étaient déjà sur une pente descendante, je trouvais, au niveau des performances. Mm-hmm. Puis ils n'ont jamais été capables de remettre entre les poteaux un gardien. Il y en avait un bon, puis ils l'ont perdu. Il y en avait même... Grace, ça, c'était avec les Islanders, mais je me souviens plus de son nom. Il était parti Golo, Colorado. Hein, je me souviens bien. Grubauer.
Grubauer,
ah, oui,
c'est vrai.
Grubauer, ouais.
Donc, il y avait lui aussi là, qui aurait pu... puis ils ont jeté leur dévolu sur Samsonov qui ne s'est pas développé à la vitesse qu'il croyait. Mm-hmm. Fait que là, il y a Venechek qui est arrivé, mais peu d'expérience. Je m'attendais à ce que peut-être qu'il allait perdre un match, finisse en 6, ça m'a un peu surpris. Mm-hmm. Mais d'un autre côté, les Panthers, on dirait qu'en fin de saison, ils surfaient un peu sur leur saison. Fait qu'ils ont peut-être mis du temps à se mettre en marche aussi. Mm-hmm. Puis les playoffs, c'est pas comme la saison régulière. Là. Huberdeau doit s'en rendre compte. Tu ne feras pas tant de points par match en playoffs, ce ne sera pas pareil. Donc,
Même si dans les séries, cette année, il y a beaucoup de buts qui se comptent,
oui.
Les séries, ça va être plus tight en avançant dans le processus.
Il y a ça, mais il y a aussi que l'espace sur la patinoire ne sera jamais à même parce que les arbitres vont tolérer un peu plus l'accrochage, un peu plus les coups de bâton, un peu plus les obstructions. On va tenir un gars plus longtemps dans le coin, des choses comme ça. Et puis, plus ça va monter en intensité, en effet, plus le jeu va se resserrer. Oui.
Toi, Mathieu, qu'est-ce que tu avais dit sur cette série-là?
Je pensais que ça allait être Floride. Floride, j'avais pas vraiment fait de match, mais dans ma tête, ça allait être en 5. Là. Je pensais vraiment pas que Washington y allait même gagner 2 matchs. J'ai été surpris des scores. J'ai été surpris comment que les matchs, ouais, ils se switchaient, comment l'énergie changeait de côté, changeait de camp pendant le match. Puis ça a été bon de voir la force de caractère un peu de Floride, de revenir en arrière d'une coupe de match, puis des gagner. Parce que c'est ça, le Floride, là, sont pas habitués les séries. C'est plein de joueurs que c'est nouveau pour eux autres. Puis la game, là, à streak de match en match, tu affrontes les mêmes gars match après match. Ouais. C'est pas comme la saison régulière. Fait que ça a été bon de les voir se retrousser les manches puis de pousser la note un peu plus dans ces conditions-là pour les préparer, pour qu'ils sachent hey, les autres matchs aussi, là, ça ne sera pas des parties de plaisir puis ça ne sera pas comme en saison régulière. Là. C'est une autre game. Puis Bobrovsky, il ne m'inspire pas nécessairement confiance plus que ça.
Non, vraiment
bon. J'aurais tendance à essayer, tu sais, s'il gagne, s'il perd un autre match là, ou deux, là,
Spencer
Knight.
C'est ça, l'essayer, lui donner une chance. Là, il était fait bien dans la saison régulière, donc pourquoi pas y donner une chance
exactement,
pour,
ouais,
pour les séries. Mm.
Pour la prochaine série, là, désolé, il y a eu du montage, mais j'ai tout perdu mon Internet. OK, je retourne à nos séries précédentes. On était rendu à New York Rangers contre Pittsburgh. Moi, j'avais dit Pittsburgh en 7. Et puis, je me suis trompé. Vous, quelle était votre prédiction, messieurs?
Même chose, Pittsburgh en 7. Je voyais en début de série, là, Pittsburgh avec l'expérience, un peu donner une leçon de c'est quoi les séries éliminatoires aux jeunes Rangers. Mais en même temps, je m'attendais à ce que les Rangers sortent quand même assez fort puis affamés. J'ai été vraiment surpris de des hauts et des bas de Shirt. Ouais. J'ai vraiment été très, très surpris, autant des hauts que des bas. Lui, ça y met de l'expérience derrière lui. Ça va l'aider pour la suite des séries. Mais d'un autre côté, je pense que les blessures ont fait que Pittsburgh a échappé cette série-là. Je ne sais pas si leur parcours aurait été long cette année, mais je les voyais quand même passer à la première ronde.
Parce que là, ils ont commencé la série. Tristan Jarry était blessé.
Ouais.
Ensuite, c'est lequel qui s'est blessé? C'est Leur deuxième goaler.
Desmith.
Desmith, oui, Casey Desmith. Et puis, il était avec leur troisième gardien, Louis Domingue.
Oui.
Fait que, tu sais, c'est ça.
Qui a bien fait.
Il a bien fait quand même.
Quand il a embarqué en deuxième prolongation après avoir mangé un dîner. Hein, ils en ont parlé. Ouais. Ils en ont tellement parlé à TVA Sports. C'était par RDS aussi. Là.
Ça en était agressant.
Mais oui, en tout cas, belle surprise parce que j'étais quand même content. J'écoutais la prolongation hier. J'étais vraiment content quand même de voir ce but-là de Panarin puis de voir un peu la gang des Rangers vivre ça la première fois depuis 2017. Donc, je trouve ça le fun. Quand c'est une jeune équipe comme ça, je trouve ça le fun. Là, ouais.
Absolument. Toi, Mathieu, qu'est-ce que tu avais prédit entre les Rangers et les Pingouins?
Même chose, j'avais dit Pittsburgh. Je pensais vraiment pas que Rangers allait pouvoir, passer au travers, mais avec la blessure de Crosby
aussi,
puis de Smith là quand il s'est blessé, tu sais, Domingue, c'est un goaler de Ligue américaine. Là. Il est bon, mais il est pas constant. Puis c'est pas pour rien enlever le talent. On s'entend que c'est un gars hyper talentueux quand même. C'est juste que ça prend la coche de plus pour exceller en plus dans la Ligue nationale sur une base régulière et en plus en série. Malheureusement, Louis Domingue, il est correct, mais pas sur une longue période. La preuve, c'est que Tristan Jarry, ils ont donné le septième match qui revenait après je sais pas combien de mois d'inactivité pour deux mois avec un pied cassé. Puis il préférait utiliser Jarry que Domingue pour le match numéro 7.
Ouais.
Puis il a bien fait, Jarry, là, dans les circonstances.
Oui, tout à fait.
On le voyait dans son non-verbal, par exemple, qu'il n'était pas à l'aise. Mais écoute, quand le puck était droppé, le mal, il s'en allait je ne sais pas où, mais il gaulait, puis il a vraiment fait des beaux arrêts.
Je n'ai pas vu la controverse, là, mais supposément qu'il y en avait une avec... sur le dernier but, sur le but égalisateur, là, où Lafrenière aurait comme arraché le casque
le casque,
de Pittsburgh, fait ce qui l'a forcé à aller au banc, donc infériorité numérique pendant quelques instants. Puis là, le temps, il est arrivé sur la glace, il ne savait pas trop se placer, puis ils ont fait un but. Là.
Oui.
Je ne sais pas s'il y a vraiment matière à vraiment... Est-ce que les fans des Pingouins ont vraiment matière à être offusqués de ça? Moi, je n'ai pas vu le jeu, là.
Écoute, c'est le règlement. Il faut qu'il soit appliqué de la façon, mais c'est un règlement vraiment colon, à mon avis. Je comprends là, la sécurité, etc., mais tant qu'à ça, au pire, sif.
Ouais.
Si un gars perd un casque, sif, paraît le jeu. Parce que là, ça n'a aucun bon sens que le gars, si tu trouves ça trop dangereux qu'il ne joue pas de casque, pourquoi il faudrait traverser la glace au complet puisqu'on a son banc au travers du jeu? Tu sais, ça n'a aucun sens à mes yeux, ce règlement-là. Puis oui, en effet, je pense que Pittsburgh avait raison, mais écoute, c'est ça le règlement, c'est ça. Fait qu'il faut que tu le fasses, c'est comme m'envoyer à Puck des estrades. Il y a une Coupe Stanley qui va se gagner là-dessus.
Mm-hmm.
Mais c'est ça fait partie
de la game. Je pense
que
c'est plus parce que le geste avait l'air intentionnel de la part de Lafrenière.
Écoute, ça va t'abattre quelque chose qu'on va voir. Attachez vos gants, les boys, parce qu'ils vont essayer de vous arracher le casque. Mais tu sais, c'était. Oui, t'avais l'air quand même, c'était là qu'il visait, là. Mais tu sais, est-ce que Lafrenière, la fille, s'est dit, moi, j'y enlève son casque, je pense pas. Mais tu sais, moi, je me rappelle, là, je regarde la séquence, je dis, hey, là, il a perdu son casque. S'il reste, il prend deux minutes. Est-ce que. Tu sais, c'est-tu un goal ou un deux minutes que tu veux? Moi, je pense que quand tu révèles la situation à vitesse ralentie dans notre salon, on se dit, ben, il aurait dû prendre le deux. Mais quand que ça se passe dans la Ligue nationale, ça se peut que la décision, c'est, ah, fuck, faut que je m'en aille au banc. Puis okay. C'est ça qui est fait. Puis écoute, ça a donné ce que ça a donné. Mm. Mais en effet, ça te déstabilise, mais ça fait partie des impondérables du hockey. Comme un arbitre qui voit ou qui voit pas une situation, ça fait partie de ça. Puis malheureusement, ça a coûté peut-être la série aux Pingouins.
La dernière série dans l'Est, c'était celle que j'avais hâte de voir. Et quelle série ça a été? Du hockey magistral entre Toronto, que je déteste en passant, et Tampa Bay, que je déteste encore plus. Mais ça a été tellement... sept matchs incroyables de hockey. J'avais dit, avant que ça commence, Toronto en 6. Et puis, ça a été Tampa Bay en 7. comment vous avez, malgré la défaite, parce qu'on peut rire, on pourrait prendre 20 minutes pour rire de Toronto. Oui, Toronto, ça fait 18 ans qu'ils n'ont pas gagné une série. Ils ont des gros canons qui ne réussissent pas à les amener en série, mais quand même, quelle série de Matthews, de Marner. Malheureusement, Campbell, à mon avis, n'a pas fait le poids contre... même Vasilevski n'a pas été, over the top comme les deux dernières années, mais quand même, malgré tout...
Le dernier match a été solide, là, mais ouais. Le début des séries, là, c'était pas... Toronto a gagné, c'était 5-3, puis après ça, un autre 5, puis après un autre 5. Non, c'était des gros buts là, contre Vasilevski.
Ouais, c'était même étonnant parce que regardez les chiffres en carrière de Vasilevski en série. Vous allez peut-être me dire que il n'a jamais pogné une offensive comme Toronto. Vous avez probablement raison. Mais c'est quand même quelque chose parce que comparé avec Carey Price de son club de l'an passé, on est ailleurs.
Exactement.
Mais d'un autre côté, Toronto était pas mal plus là cette année que l'an passé.
Vraiment.
Mais il y a quelque chose à Toronto.
Mais c'est rendu mental leur affaire.
C'est comme les Red Sox à l'époque au baseball. Oui. Là.
Ouais.
Ça a pris genre Manny Ramirez ou David Ortiz va virer ça de bord. Là. Mais je sais pas qu'est-ce qui va changer parce qu'ils ont fait leur devoir, ils ont fait tout comme il faut, mais tu sais, c'est pas encore terminé, mais ça se ferme tranquillement. Tu sais, ils sont à un gardien, puis on pensait à un ou deux défenseurs, Giordano, compagnie, ça c'est pas des pieds de céleri.
Mais en même temps, on va trouver le goaler, eux autres, à la limite des transactions, puis se l'ont fait chipper par Arizona.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Ouais, ça, c'est une méchante joke.
Oui, vraiment. Mais il faut dire que en face d'eux autres, il y avait les doubles champions de la Coupe Stanley. Est-ce que ça pardonne?
Ils n'ont vu d'autres, eux autres. Là.
Est-ce que ça peut pardonner pour cette année, les Maple Leafs, d'avoir pogné en première ronde Tampa
Bay? Nylander, c'est un des joueurs qui devrait partir de ce club-là pour échanger pour la profondeur. Et j'explique pourquoi.
Ouais.
Si vous regardez les dernières minutes du dernier match numéro 7, à un moment donné, il y a la rondelle.
Oui.
Puis ils tournent en périphérie. Là. Ils perdent 1-0. Là. Il y a de la place pour pouvoir aller couper vers le net, puis il reste en périphérie. Il n'est pas capable d'aller se mettre le nez dans le trafic. La coche de plus, le prix à payer que les joueurs des Lightning sont prêts à mettre là, de la grit un peu, Nylander, il n'est pas prêt à faire ça pour son équipe. Puis ça l'aurait peut-être fait des chances. T'sais, je ne dis pas qu'il aurait compté, mais ça aurait peut-être pu occasionner une chance de marquer. Là.
Ça t'en prend un comme ça, hein, Mathieu? Ça t'en prend un comme ça? Ça t'en comme un Kreider avec les Rangers, comme Evander King? Regardez comment Evander King est en train de tout changer l'offensive des Oilers. On va en parler tantôt, mais là, je vois le temps qui défile.
Ouais.
Mais c'est rendu que Connor McDavid donne des mises en échec. Écoutez, ça n'en prend un qui rend les autres plus à l'aise. Puis tu sais, Toronto, quand ils ont gagné leur dernière série, là, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là ou un peu avant, là, c'était Gary Roberts, Matt Sundin. Et c'était tough jouer contre Toronto. Il y avait du talent, mais c'était tough. Puis là, ils arrivent en playoff, ils en ont pogné les plus toughs qu'eux autres.
Ouais.
Est-ce que vous aimez ce format-là, vous autres? De la première équipe de la conférence qui rencontre la wildcard numéro 2, la deuxième meilleure équipe de l'autre division qui rencontre la wildcard numéro 1, ça serait pas mieux un 8-2-7 comme dans le temps? Parce que là, en première ronde, je sais que ça fait une première ronde de fou. Là. C'est vraiment du bon hockey. Mais là, on vient de perdre en première ronde, OK? Puis bravo, là, OK? Mais on vient de perdre Toronto. On a perdu Pittsburgh, qui aurait, je crois, mérité un meilleur sort malgré tout. Mais moi, même si j'haïs Toronto, c'est plate. Je sais que c'est le hockey, mais c'est plate de voir une équipe de même perdre en première ronde contre une équipe semblable. Là. Ben, t'sais, en même temps, ils sont double champions. Je ne veux pas dire qu'ils sont aussi bons, là, mais quand même. J'aimais mieux le format 1-8-2-7, 3-6, etc.
J'ai tendance à être d'accord avec toi, Jérémy, aussi. J'ai de la misère à défendre ce système-là.
J'ai bien de la misère.
Ça donne des beaux match-ups en première, deuxième ronde.
Oui.
Je pense que le but, c'était ça, c'était de ramener des gros match-ups dans les divisions, un peu comme à l'époque, justement les années 80-90, où la division Patrick se pognait ensemble, la Adams et compagnie. Puis là, il fallait que tu sortes de ta division pour aller chercher ta conférence, puis après ça, aller chercher la coupe. Et là, le problème, c'est qu'il y a un gars de ton, il y a un club de l'autre division qui peut apparaître dans la tienne parce que ta division est plus faible. Fait que tu peux te retrouver avec, dans le fond, le quatrième, l'autre bord, puis le cinquième, l'autre bord, mais qui sont dans une division ultra forte. Fait que ça serait des clubs qui seraient peut-être deux ou trois dans la tienne. Fait que oui, moi, à ce niveau-là, je trouve que ça vient fausser un peu les données. Puis on sait comment la métro est forte, cette division-là, depuis des années. C'est tough jouer dans la métro.
Ah, ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun bon sens. Tu sais, Philly serait dans... Philadelphie, cette année, on sait, là, ça a mal fini, puis pas à peu près. Mais il serait dans la division, exemple, avec le Canadien, puis on serait ailleurs. Là. Fait que tu sais, il y a des choses comme ça que j'aurais tendance à être d'accord avec tout, que j'en reviendrai avec le 1-8, 2-7 et compagnie.
Exact. Vous, vos prédictions, ça a été quoi? Avant que ça commence, là, Toronto Lightning?
Je voyais Tampa Bay en 5 ou en 6. Je pensais vraiment que Tampa Bay allait jouer un méchant tour.
Okay.
Parce que je me suis dit Vasilevski va aller voler 2-3 blanchissages. Hey, c'est vraiment pas ça qui s'est passé. Ils m'ont surpris.
Ouais. Toi,
puis je pensais que Toronto, ça aurait pogné un peu plus le bang que ça. Puis non, pas en tout.
Ils ont été très
mis bons. À part les séquences de Nylander, là, où que, aussi ils virent devant là, avant la place d'aller dans le coin puis des choses comme ça. Mm-hmm. J'attendais John Tavares, j'ai vu du beau John Tavares, j'attendais Marner, j'ai vu du Marner, du Matthews, du Matthews, Riley, ouais. Mais c'était pas suffisant.
Exact. Toi, Mathieu?
Même chose, là. J'avais pas prédit de chiffres, là, parce que j'ai pas fait de pool cette année, là, mais Tampa Bay, je pensais qu'elle allait gagner, mais j'espérais me tromper.
Ouais.
J'aimais ça que Toronto, il passe en deuxième, puis enlever le monkey off their back, là,
ouais, ouais, exact.
Pour le reste des playoffs.
Exactement. Mm. Passons à l'Ouest, messieurs. Passons à l'Ouest. avec une série qui a été très expéditive entre les Avalanches du Colorado et les Prédateurs de Nashville qui ont gagné en 4 petits matchs avec un certain Cale Makar. Quel joueur, quel jeune, ça n'a aucun bon sens, ce jeune-là. Vous souvenez-vous, les gars, d'avoir vu un défenseur aussi jeune, aussi dominant? Là, je ne parle pas d'un vétéran, là. Un jeune, en bas de 25 ans, défenseur, être aussi dominant.
Paul Coffey, peut-être, ouais. Mais j'étais trop jeune pour voir
ça. Je me souviens pas d'avoir vu ça. Je me souviens pas d'avoir vu ça. Il est incroyable, ce jeune-là.
C'est hallucinant, là.
Oui, vraiment. Vraiment.
C'est un Barbie Orr de la nouvelle génération.
Oui, totalement, ouais. Totalement. Puis il joue bien dans toutes les sphères de sa game.
C'est ça qui est hot, parce qu'il n'est pas juste un... Tu sais, comme Chris Letang, il était vraiment fort comme pour l'offensive, tout ça. Il avait peut-être, au début de sa carrière, je parle, là, puis peut-être un peu plus de lacunes défensivement. Mais tabarnouche, tu sais, ce gars-là, il est bon autant défensif qu'à l'attaque.
Il est dangereux. Mm-hmm. Vraiment dangereux. Il y a Simon Ferland qui dit Larry Murphy. Larry Murphy.
Mais Larry Murphy n'était pas autant spectaculaire, mais oui, il y a une production, là, c'était vraiment quelque chose, là, surtout dans ses années à Pittsburgh. Mais on se rappelle, là, Murphy a commencé avec les Red Wings de Détroit à l'époque, là, il s'est fait un peu les dents là. Mais oui, c'est quand même une bonne comparaison. Il y a peut-être Brian Leetch aussi, là, mais au niveau fluidité du patin, là, c'est le plus beau patineur que j'ai vu avec une rondelle depuis au moins Scott Niedermayer facile. Donc, on va le comparer au grand toute sa carrière parce que ça va être un grand.
Oui, absolument. Moi, j'avais dit au début de la série, avant que ça commence, Colorado en 6. Quel était votre avis sur cette série-là, messieurs, avant que tout commence?
J'y allais en 5. Je m'attendais à ce que peut-être Yussi Saros en sorte au moins sorte un lapin de son chapeau. Et malheureusement, là, la blessure venait et M. Ingram est rentré que dans les circonstances, pas été méchant, mais écoute, là, c'est tu commences dans la Ligue nationale, t'as beau avoir 25 ans, c'est l'Avalanche Colorado, c'est aïe aïe.
Ça n'a pas de bon sens.
10 points en 4 matchs pour Cale Makar, c'est juste démentiel.
Non, c'est fou raide. Toi,
un
point
par game en carrière en playoff, ouais. Ça, c'est quelque chose.
Oui, vraiment. Toi, Mathieu, sur cette
série-là? Moi, j'étais sûr que Colorado était pour battre Nashville, vu que Saros n'était pas là.
Ouais.
Mais quand que Comper il a reçu le bâton dans l'œil, puis ouais. Il était out, là j'ai fait comme, oh, tu sais, Frank Coos, là, c'est pas Comper, là, tu sais. Fait que là, mais écoute, l'équipe de Colorado est juste tellement puissante que ça n'a fait aucune différence, là. J'aurais pu aller gauler pour Colorado, puis il aurait gagné pareil.
Ouais, c'est ça. Ah, c'était débile.
Ah, c'était fourraine. La prochaine qui a eu lieu, c'était Calgary contre Dallas. J'avais dit Calgary en 5. Finalement, c'est allé en 7. En 7 matchs. Progression de Calgary avec un Darryl Sutter qui est arrivé l'année dernière qui, moi, ne m'inspirait pas confiance. Je me suis dit, pourquoi tout le temps ramener les mêmes vieux coachs? Ben, Kalik, il a réussi à ramener cette équipe-là, puis ils sont très dangereux, les Flames. Mais que dire du Cerbère de l'autre côté des étoiles de Dallas? Un certain Oettinger qui a une moyenne, un taux d'efficacité au-dessus de 940 dans cette série-là, et malgré tout, perd la série. Ça va être une étoile, ça, ce jeune goaler-là des Stars. Mais pour moi, qu'est-ce que tu avais prédit, excuse-moi, sur cette série-là?
Je voyais une série plus expéditive là, du côté des Flames, que je trouve qu'ils sont bien bâtis pour les séries. Je voyais, tu sais, ils sont quand même bien balancés, ils ont de la profondeur à l'attaque. Au départ, par contre, j'étais un peu sceptique quand je voyais, entre autres, Mathieu Tkachuk jouer plus un match de petite perte, un match physique. On dirait qu'il avait laissé toutes ses bonnes habitudes qu'il avait prises dans la saison au niveau offensif. Je sentais qu'il voulait jouer une autre sorte de game, mais c'est revenu quand même assez rapidement pour aider son équipe là, à justement passer en deuxième ronde. Et puis, Dallas a vraiment très chèrement vendu sa peau.
Ouais.
C'était un club que tu n'avais pas le goût d'affronter, je pense, en première ronde. Ils ont réussi à s'en débarrasser, mais il aurait pu avoir une surprise de ce côté-là.
Absolument. Toi, Mathieu?
Je m'attendais à une série expéditive. Si je pense que Dallas, ils ont resté dans le coup, là, c'est à cause de Nathalie Gauvreau qui était derrière le banc.
Nathalie Gauvreau!
En arrière de Rick Bonus. Elle a inspiré les gars sur le banc à mieux performer.
Pour ouais, moi, c'est qui pas, ça? Là, mais... c'est qui ça? Qui est en arrière du banc? C'était qui cette madame-là?
Je sais pas. Honnêtement, je sais même pas si j'ai juste son nom parce qu'ils n'ont parlé à un moment donné. C'est dans les coulisses puis des sites de même. Il y avait une fille qui était tout le temps en arrière du banc. Là, puis, il a comme flashé là-dessus. Là, fait que...
Elle sait se mettre en valeur.
Ouais, c'est ça. C'est déstabilisant. Là. Ouais, ben oui. La prochaine série, Edmonton contre les Rois de Los Angeles.
Hey, Smith, là, il a comme 9 vies, ce goaler-là. C'est incroyable.
Incroyable. Hey, ça n'a pas de bon sens.
Il a 41 ans. Ils
font
les branches sages.
Ouais. Ça n'a pas de bon sens.
Ça m'a jeté à terre, cette série-là. Je pensais pas que... Tu sais, Edmonton, je pensais qu'elle a gagné. Là. Oui, ça a été en sept matchs, mais j'ai jamais pensé que Smith aurait fait des blanchissages. Aurait été un facteur déterminant dans quelques victoires. Tu sais, quand tu gagnes 2-0, quand tu gagnes des matchs de même, le fouton goaler, c'est sa coche. Puis je pensais que si Edmonton était pour gagner, il fallait qu'il allait devoir compter 8 buts par match là, pour réussir, parce que Smith, il allait en laisser passer 3-4...
Il est mieux
pour 4 muffins, comme dirait l'autre. Là.
Il est mieux préparer ses pâtes, puis sa mitaine, puis son biscuit, parce que là, ça va être Calgary, l'autre bord, puis ils sont capables de le faire travailler de droite à gauche, puis de gauche à droite. Ah, ça va être incroyable, vraiment.
Ça va être toute une série. Moi, je m'attendais à ça. Je fais exactement, j'avais mis Edmonton en 7. Je m'étais dit, oui, OK, Dano, Kopitar sont capables de shutdown, mais... je sentais vraiment avec la saison, je voyais un changement un peu de culture et de façon de jouer chez les Oilers.
Ouais.
Beaucoup plus intense. Puis Evander Kane, on dira ce qu'on voudra sur cet homme-là en dehors de la patinoire. Là, mais
ouais, parce
sur
qu'il y en a fait des vertes et des pas mûres.
Il est à sa place. Et sérieusement, si je suis Connor McDavid, peut-être que je suis prêt à accepter certaines choses comme le fameux ça là, qu'il avait fait là. Il a regardé la foule, puis il a fait ma game numéro 7, la foule de Los Angeles. On a su que McDavid n'avait pas trouvé ça drôle parce qu'il avait peur de se faire jinx à cause de ça. Et finalement, l'histoire a fait que même M. McDavid a décidé de régler ça. C'est un game-là. Fait que, quand il a compté le deuxième but, on savait très bien que c'était terminé pour les Kings. Puis on voyait des Oilers vraiment intéressants. Fait que là, une bataille de l'Alberta, c'est... Écoutez, ça, puis la bataille de la Floride, là, on est vraiment chanceux de voir ces deux match-ups-là. Je pense que Tampa Bay vont pogner des adversaires qui ne s'attendent pas pantoute, puis je pense que les Oilers vont pogner des adversaires qui ne s'attendent pas non plus. Ça sera pas facile. Bref, on va faire des prédictions probablement tantôt, là. Je veux dire, sur celui-là,
on
là,
y arrive. On y arrive très bientôt. Moi, j'avais dit les Kings en 7 en passant. J'étais certain que j'ai pas confiance aux Oilers. Déjà qu'avant la série, justement, Mike Smith, comme on a dit, 40-41 ans, pas très
stable. Il a presque pas joué de la saison.
Presque pas joué. McDavid, c'était la première fois que je regardais McDavid attentivement, pas juste dans des highlights, mais attentivement. J'ai remarqué, oui, c'est peut-être le meilleur joueur au monde en ce moment, mais qui est taxé simplement sur son jeu à lui. C'est pas un joueur d'équipe. Mettons, là, il n'y a pas de comparatif, d'après moi, à faire entre McDavid et Crosby.
C'est pas pareil.
Non, Crosby rend pareil, les autres non. meilleurs autour de lui, pas McDavid. Désolé, là, mais je trouve que McDavid, non. Tandis que Crosby, oui.
Ben, McDavid, les gens vont faire des points avec lui parce que c'est une machine à production offensive incroyable. Écoute, il fait tout. C'est parce qu'il fait tout plus vite que tout le monde. Fait que oui. C'est un peu ça qui donne l'allure que... Il est comme un peu tout seul dans son monde, mais écoute, je sais pas si la Ligue nationale a déjà eu un McDavid avant.
Ah, il est incroyable. Là.
À ce point-là, mettons, vitesse, au niveau de la façon qu'il est bâti puis tout. Là. Ouais.
Le problème, c'est que pendant tellement d'années, Edmonton, ça a été Connor McDavid ou rien pendant tout. T'sais, ça me fait penser un peu, je sais pas si vous avez écouté Fresh Prince of Bel-Air, je pense que je suis un petit peu plus vieux que vous autres, là, mais avec Will Smith, là, la série quand il était jeune. Là. Il y a une émission là-dedans à m'emmener. Il joue au basketball. Puis Will Smith, il était tellement bon au basketball que toute l'équipe, le seul... Le jeu, c'est « pass it to Will ». Passe-le à Will, puis Will va le mettre dedans. Là, ouais. Fait que c'est ça, la stratégie. Puis on dirait que Edmonton, ça a été longtemps ça, pendant plusieurs années. Ouais. Juste « passe-le à McDavid, passe-le à McDavid ».
Comme le mieux McDavid. Dans ses premières années à Pittsburgh.
Ouais.
Ouais,
c'est ça le comparatif que je peux voir.
Mais là, maintenant, un peu comme Jérémy a dit, là, on dirait qu'il y a comme eu un petit vent de tournant là, justement avec Kane, puis ouais. ça a comme changé Paul un peu Jarvie la dynamique. Puis, comment? Excuse.
Il joue aussi avec Paul Giarvi et tout, qui sort un peu de sa tanière.
Qui a fini par éclore.
Et puis, il y a un solide coup de patin. Le gars de 6-4, 6-5. Il y a un solide coup de patin aussi. Il est capable de suivre la game pas mal. King donne des coups d'épaule. Mais oui, en effet, Jérémy, t'as pas mal vu. C'est spécial un peu à regarder McDavid jouer puis à quel point il peut mettre du monde sur le bout de leur siège. Là, c'est un show en soi.
Ah, mais ça sera pas. Oui.
Il y aura jamais le trophée Selke. Ça, c'est clair.
Exactement. C'est ça. Et puis la dernière série avant qu'on fasse la deuxième ronde, nos vraies prédictions. Là, on va vraiment les avoir sur tape. Minnesota contre Saint-Louis. J'avais dit Minnesota en 7. Et puis je me suis trompé. J'avais oublié comment Saint-Louis est rodé pour les séries. C'est un club de séries, les Blues de Saint-Louis. Et puis, Colorado vont avoir de la misère. C'est juste ça que
j'ai sous-estimé beaucoup, moi aussi, ouais. les Blues dans cette série-là. Puis, je m'attendais à ce que l'histoire de cette série-là soit Kaprizov puis Marc-André Fleury. Ouais. Pas ça qu'on a eu. On a eu pas loin de ça quand même, Kaprizov. Il a quand même été nouveau offensif assez présent. Mm-hmm. Mais les Blues, oh mon Dieu Seigneur! Ouais. C'est vraiment, comme tu dis, une bonne machine de hockey. Oui, Colorado a de la misère. J'ai hâte de voir vraiment cette série-là aussi. Là, on va en parler tantôt, là, mais ça va être quelque chose.
Absolument. Mathieu, t'avais dit... qu'est-ce que tu avais dit?
Moi, je pensais que Minnesota était pour gagner aussi.
Ouais.
Quand j'ai vu au début, là, parce que Binnington, lui, il a mal gaulé dans la saison. Il avait donné le filet à Ville-Husso. Puis, Là, il a commencé la série. OK, ils ont gagné le premier match, mais après ça, Fleury il avait revenu, puis ils ont gagné deux matchs.
Mm-hmm.
Je me dis, ça y est, c'est fait. Mais là Bennington il est rentré, puis il a goalé ça, là. Il a pris le balle, puis non, ça m'a jeté à terre. Là. J'ai jamais pensé que Blues allait en gagner trois de suite, là, puis qu'il allait finir ça direct de même. Ça m'a vraiment beaucoup surpris, puis j'imagine que les fans, ils devaient être un peu déçus parce que tu sais, Cam Talbot, il a quand même traîné l'équipe pendant une bonne partie de la saison. Puis là, Fleury rentre, puis là, Fleury le met dans les séries. Puis là, ça n'a pas été, peut-être pas concluant là, pour dire que c'est de la faute à Fleury, là, mais...
C'est que je me demandais si on ne verrait pas Cam Talbot maintenant un peu plus, mais...
Ouais.
Bref, c'était là, puis pas là que ça jouait, mais en même temps, ce que je pense, c'est que... Et l'expérience, maintenant, elle parle aussi. Puis
ouais.
L'expérience autant derrière le banc. Tu sais, mm-hmm. Craig Berube, il a vraiment bien coaché ça. Puis,
vraiment.
Tu sais, c'est pas la même défensive qui ont gagné la Coupe à Saint-Louis, on s'entend. Il y a des morceaux comme Hemmingson, entre autres, qui est à Montréal, qui est un méchant bon stud pour ces types de matchs-là. Mais Motu Bennington, son retour, un peu, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Là, parce que Bennington, depuis sa conquête de la Coupe Stanley, c'est vraiment en montagne danse, russe, ouais. Sa carrière. Donc, ouais. Je suis content pour lui aussi.
Et puis là, messieurs, le moment de vérité, la deuxième ronde. La deuxième ronde, t'avais hâte d'en parler, n'est-ce pas, mon cher Paumé?
Okay, oui.
par quelle série tu veux commencer? Je te laisse le choix. L'Est, l'Ouest, n'importe quelle division, vas-y.
Ben, je vais commencer dans l'Est. Je vais dire que les Panthers de la Floride vont battre et fermer les livres là, pour une troisième conquête au Lightning en 7 matchs.
OK.
Je pense que...
La fatigue accumulée, moi c'est une de mes,
un
c'est
peu,
une de mes prédictions.
Un peu fatigue psychologique. Mais je crois aussi que c'est un club que, justement, Mathieu l'a tellement bien expliqué tantôt, ils se sont comme réveillés dans cette série-là, la première ouais. série qu'ils ont eu à Washington. Ils se sont rendus compte que c'était plus une partie de plaisir. Puis là, il y a du leadership, il y a Chariot qui est là comme un backup à défensive, si jamais quelque chose, mais... C'est un gars qui est allé à la finale de la Coupe l'an passé. Mm-hmm. Ils ont ce que ça prend là, pour battre. Mais attendez-vous à une série. Vraiment, je pense qu'en Floride, ils n'ont jamais eu ça là, encore. Là.
Hey, on n'a pas parlé en Floride de Verraghi.
Ouais.
Wow! Quel
ouais, c'est vrai.
Ouais.
C'est pas le meneur, mais c'est pas un des meneurs au classement, justement, des pointeurs des séries à date.
Oui, absolument.
Je pourrais dire qu'il l'était, je sais pas s'il l'a encore, mais il l'était.
Sûrement
là,
après Makar, mais.
Ouais. Mais il n'y a pas Braden Point et tout, qui a pas mal de points. Là. Écoutez, je m'en vais pendant que vous parlez. Là, je regarde ça. Il y en a Connor McDavid qui a 14 points. Après ça, Carter Verhaeghe, il y en a 12.
Ah, oh, il y en a 12, OK. Il est au-dessus de Makar, OK.
Puis il est bien balancé, là, c'est une espèce d'affaire de. C'est 6 buts, 6 passes. Okay. Mais il est en dos. Je regarde pas la bonne saison, on dirait. Non, c'est ça, 2022. Ouais, c'est ça. Parfait. Mais je comprends pas pourquoi ils me disent. OK, excusez, je regardais pas à la bonne place. Je pensais que c'était 12 matchs de jouer, mais c'est le nombre de points. 12 okay. points, ouais, c'est ça, deuxième. Puis Brad Marchand, hein, le bon vieux Brad est là avec 11 points. Zibanejad, Jake Wenzel, puis là, Makar arrive avec ça, mais c'est parce que Makar a juste joué 4 matchs.
c'est ça l'affaire. Fait que, pour moi, toi, tu dis la Floride en 7
oui.
matchs, c'est ça?
Oui.
OK, Mathieu.
Tampa Bay en 6.
Oh!
Ouais.
Tampa
ouais.
en 6?
Ouais, ouais, ouais.
Et pourquoi?
Je sais pas, tu sais, oui, les Floride se sont réveillés, là, mais je sais pas s'ils sont vraiment prêts.
Prêts, ouais.
Tampa Bay, là, c'est une machine bien huilée. Puis même s'ils ont changé les joueurs, là, au cours de la saison morte, là, mm-hmm. les joueurs qui ont parti, là, sont tissés serrés en tête. Tu sais, puis je sais pas. C'est juste un feeling que Floride, je pense pas qu'ils sont prêts à faire face à cette okay. machine-là. J'aimerais ça, par exemple, j'aimerais ça que Giroux et Huberdeau ils se rendent là, plus loin. Là. Puis, tant mieux si je me trompe.
Mm-hmm.
C'est juste un petit feeling que j'ai. Là, fait que je vais dire Tampa Bay en 6.
Moi, je vais y aller avec la Floride en 7. Je crois que je l'ai dit tantôt. Mais on n'en a pas parlé, mais Braden Point est blessé, messieurs. Oui. C'est vrai qu'il y a d'autres joueurs, bien sûr, chez le Lightning de Tampa Bay. Mais comme j'ai dit tantôt, moi, je crois... J'ai vu dans la série contre Toronto une équipe quand même fatiguée. Ça fait beaucoup de hockey pour le Lightning de Tampa Bay en 2 ans. 2 conquêtes. Ouais, 3 conquêtes de la Coupe, c'est quand la dernière fois? Les Oilers, les années 80, 3 coupes en ligne?
Islanders.
Islanders?
Oui, c'est ça. Ouais, Edmonton n'avait pas gagné. Il avait gagné 2, je pense, ouais, mais pas...
De 81.
Ils en ont gagné 4 en 5 ans.
4 en 5 ans.
C'est Canadien qui est 86. Mais de 80 à 84, c'est les Islanders, dans le fond, les 3 dernières.
Ça fait 40 ans.
Ça date de ce temps-là, ouais.
40 ans. est-ce qu'il y avait 82 matchs dans ce temps-là, paumé? Des années, début 80?
Bonne question. Ça, c'est soit 80. Je sais qu'un bout, il y a eu 84 matchs, mais je ne sais plus à quelle époque. Okay. Je dirais, j'aurais tendance à dire 82.
OK. Mais quand même, j'y vais, je continue à dire que malgré la fatigue des 2 dernières années, avec la fatigue des 2 dernières années, excusez-moi, la Floride va passer au 3e tour. Et malgré Bobrovsky, je vais le dire comme ça, parce que je crois qu'il va laisser passer quelques savons. Voilà. Fait que Floride en 7. La prochaine série, on continue dans l'Est, on va finir l'Est, tant qu'à faire. Caroline, la Caroline contre les Rangers. Je vais commencer avec Mathieu, tiens.
Caroline en 6.
Caroline, parfait, excellent choix.
Ouais. Pour les raisons que c'est juste carrément une équipe juste meilleure, franchement meilleure all-around que les Rangers. Peut-être bémol sur le gardien de but, là, mais... comme quoi, un peu paumé, tu avais mentionné, là, Shesterkin, il y a eu des faiblesses là, en première ronde. Mm-hmm. Puis je pense que Caroline sont une bonne équipe, ils vont pouvoir exploiter ces faiblesses-là. Puis d'après moi, là, ça va être Caroline en 4. En 4, voyons, en 6.
En 6, OK. Anthony, mon cher Anthony.
Moi, je vais avec Caroline en 5.
Moi aussi, j'allais dire ça.
Je ne suis pas assez courageux de mettre ça en 4, mais j'avais presque le goût. Je crois que le 31 des Blue Shirts va peut-être changer la donne, mais écoutez, le peu de créativité offensive que les Rangers vont pouvoir démontrer dans cette série-là, et ça sera pas facile non plus au niveau des unités spéciales. Le piqué de Caroline est vraiment débile. Les gars se donnent. Dans le fond, les gars, ils ont un exemple en arrière du bain, il s'appelle Rob Brind'Amour.
Exact.
Puis ce gars-là, là, il était prêt à prendre n'importe quel coup pour gagner. Puis les gars, j'ai feel de même, puis ils ont du talent. Ils sont très underrated, je trouve, la Caroline. Même si à Montréal, on a pris plaisir à ne pas les aimer suite aux événements avec Kéké. Écoute, là, présentement, on met ça de côté, on regarde l'équipe, là, puis je serais quand même content d'être un partisan des Hurricanes cette année. Ils peuvent surprendre.
Ouais.
Je me demande si Montréal, ils n'ont pas essayé de faire un peu créer le même genre de spark avec Martin Saint-Louis en arrière du banc que Caroline avec Rod.
J'y ai pensé parce que Rod, il était pas un coach avant. Hein?
Non, c'est ça.
Mais Brind'Amour a été longtemps assistant à Caroline. Je pense qu'il était assistant 3-4 ans avant de prendre les
rênes. C'est vrai, t'as raison.
Ouais.
T'as raison.
Ouais. Pour ma part, j'y vais aussi avec Caroline en 5. Tu m'as volé mon punch, mon cher paumé. Alors, Caroline en 5, comme j'ai dit tantôt, une équipe très équilibrée. Et puis, je continue et je persiste et je signe que les Rangers, ils ont gagné, mais avec un Crosby qui ne se serait pas fait arracher la tête par Jacob Trouba, je crois qu'il ne serait pas là. Alors, j'y vais avec la Caroline en 5. Dans l'Ouest, Colorado contre les Bleus de Saint-Louis. Qui veut commencer?
Je vais y aller. Ce sera pas facile pour Colorado, mais ils vont aller chercher ça. Ils vont finir ça à la maison en 6. Ça va être tight. Moi, j'ai quand même l'impression qu'ils peuvent prendre les devants rapidement dans la série puis déstabiliser les Blues. Toutefois, les Blues, étant donné que c'est des vétérans et beaucoup de vétérans et d'expérience, ils vont s'ajuster. Puis plus la série va avancer, plus ça va devenir tough pour le Colorado. Fait que ça va être important pour eux de vraiment démarrer fort pour se faire déjà un fond de une ou deux victoires. Parce que plus les matchs vont avancer, plus le jeu va fermer et la créativité des gars de Colorado risque d'être un peu plus ternie du sens que la défensive des Blues là, peut être vraiment être assez solide par moment.
T'as bien dit en 6 à la maison, c'est ça? Parce que...
Ils commencent à maison, je me suis trompé.
Ouais, ils vont être
en 6 à l'extérieur.
À l'extérieur, c'est ça, ok, parfait. Alors, Colorado en 6, non, c'est pas grave, mon cher Anthony. Mathieu?
Colorado en 6 aussi.
OK.
Pour les mêmes raisons un peu. Puis, McKinnon, il est sur une mission.
Oui.
Puis, même affaire pour Comper, il revient pour la deuxième série, c'est confirmé. C'est... Puis, lui, ça a été titillé. Hein, quand il parlait de Fleury, peut-être aller au Colorado, puis tout ça, là, c'est venu le chercher. Là, c'est, à mon entrevue, là, il s'était fâché, là. Puis il dit, regarde, il dit, je suis correct, moi, je suis titre, là, tu sais. Ouais. Je suis goaler, là. Tu sais, il n'a pas besoin de fleurir. Il n'a pas dit ça dans ces termes-là, mais, tu sais, son expression, ce qu'il avait répondu un peu aux journalistes, c'était ça. Fait que je pense qu'il y a quelque chose à se prouver, puis prouver aux autres qu'il est capable de faire la job, puis d'amener l'équipe. Puis, fait que je pense que McKinnon, là, puis lui, je pense que ça va être ça. Mais, tu sais, quand même, Saint-Louis, là, c'est. Il ne faut pas les prendre à légère. C'est pour ça que, d'après moi, ils vont avoir deux games à maison qu'ils vont aller chercher.
Okay. Moi, je vais y aller avec aussi Colorado, mais en 7 matchs. Okay? En 7 matchs, l'expérience des Blues, je crois que leurs deux matchs à la maison, ils vont les gagner. Ces équipes-là vont gagner chacun à leur domicile. Mis à part Colorado au sixième match et puis va aller chercher ça la dernière à la maison. Les Blues, c'est une équipe que j'affectionne beaucoup malgré le fait que je les ai mis perdant à la première ronde, mais c'est quand même ça m'a rappelé justement leur conquête de la coupe, puis tu sais des O'Reilly. C'est vrai que dans les goals, là, c'est Ousso qui est là. Oui. C'est pas Bennington.
Ouais, ça va être probablement Bennington.
Ben là, ça va être Bennington. Ouais.
Ça va être Bennington. J'adore O'Reilly, mais quand même, je vais y aller avec Colorado en 7 matchs. Et puis, là, la dernière, la série de mon ami Anthony, je crois, qui va se coucher. Il va se coucher très tard dans les deux prochaines semaines.
OK, oui.
Oui,
écoute,
en ça, Alberta. Là,
un retour des bons vieux match-ups. Calgary-Edmonton, c'est comme un match-up canadien-nordique, mais pour l'Alberta. Ça va être intense. Si vous avez vu du monde se battre là, après le match de Toronto entre eux autres, là, ça c'est un peu ridicule, mais bref. On risque de voir peut-être la tension aussi au niveau des partisans.
Ouais.
Que ça sera pas facile. Ça va être une série qui va se rendre en 7 matchs.
Mm-hmm.
Et je crois que les Oilers vont sortir gagnants de cette série-là.
Oh, OK. OK, t'essayes ça, là. Les Oilers en 7.
Les Oilers en 7. J'ai peur pour les Flames. J'ai peur que leur indiscipline les coule et puis qu'ils fassent faire à un power play démentiel. Et écoutez, ça va être vraiment des bons affrontements qui vont se régler par les unités spéciales.
J'ai hâte de voir ça. On dirait que j'ai envie de changer ma prédiction. Mais vas-y, Mathieu, avant que je la dise, la mienne. Vas-y, mon cher.
Calgary en 7.
C'est
ce que
j'allais
dire. Je pense que ça va être selon quel coach va amener quel coach à jouer le style de jeu. Parce que, tu sais, Daryl Sutter, c'est un vieux de la vieille. Puis je pense pas que les Oilers vont être capables de jouer la game du grit que Calgary sont capables. Mais par contre, si Edmonton ouvre la machine, je ne sais pas si Calgary vont être capables de résister à l'attaque d'Edmonton. Fait que ça, je pense que ça va jouer beaucoup derrière la stratégie, derrière le vent. Puis, Oui, c'est ça. J'ai comme un feeling que Calgary vont passer à travers, mais ça va être de peine et de misère.
OK. Ben moi aussi, ma prédiction, c'était Calgary en 7 pour les mêmes raisons, essentiellement. Les Oilers, meilleure chance l'année prochaine, mais je crois qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour passer au travers. Mais malgré qu'Anthony, tu m'as fait vraiment douter avec tes arguments.
Faut pas oublier, hein, mais... les Oilers, ils se sont rendus en finale d'association, si je ne me trompe pas, c'était-tu contre Vegas? La première année de Vegas?
En 2018?
Ou contre Saint-Louis, mais je sais qu'ils se sont rendus. Ils ont quand même fait une bonne run à Edmonton, peut-être 2-3 ans. Mais là, cette année, j'ai comme l'impression que c'est différent. J'essaie de voir le match-up cette année. Ça finit comment?
Comment?
Fait que j'essaie de voir ça. Là. On m'amène juste sur des affaires de saison, de série. Là.
Simon Ferland, il mentionne justement Matthew Tkachuk va embrasser une coupe. Là.
Oui, mais c'est ce que. Moi, si je suis les Oilers, j'espère que Matthew Tkachuk va vouloir brasser puis va sortir de sa game.
Ouais.
Parce qu'il a commencé comme ça à la série précédente contre Dallas, puis je me souviens d'avoir entendu, entre autres, les analystes à Hockey Night in Canada nommer ça, dire « Matthew, tu devrais revenir à ta game que tu as fait 100 points et non ta game de vouloir faire le grit. » Mm.
Alors, tu vas aller voir les match-ups pendant ce temps-là, parce qu'on va se quitter très bientôt. À moins que tu me dises, Paumé, que tu les as les résultats.
Je suis encore en train de chercher, mon cher.
OK, parfait. En attendant, tantôt, on parlait de draft. Parce que là, on va se quitter. On parlait de draft. Hein. Est-ce que vous avez vu, les gars, la loterie? Est-ce que vous avez regardé la loterie?
J'ai vu les highlights. J'ai pas écouté la loterie en live, non.
Est-ce que vous avez vu Gary Bettman faire la loterie?
Oui.
Ah, tu parles de ce qu'il a dit quand c'est Montréal qui a été...
Oui, c'est ça. Alors,
Oh my. C'était borderline sarcastique.
Ah non, c'était...
Les yeux en disant,
je vais le montrer à ceux qui sont en vidéo. si vous voulez voir ça, allez voir ça. Juste à écrire « Gary Bettman announce first pick ». On voit, je vais le décrire avant de partir l'audio, la vidéo aussi. On voit Gary Bettman semi-déçu. Je vais le dire comme ça, c'est très poli. Hein? Que ce soit Montréal qui est le premier choix overall pour le draft. Oui, Paumé.
Juste avant, on va closer le dossier. Oui. C'est 3 victoires, 3 défaites. Il n'y a pas de prolongation, il n'y a pas rien. Mais c'est 3 victoires, 3 défaites. C'est even. Fait que,
Ça va être bon.
OK, ouais. Go. Okay, on écoute Gary.
Alors, on termine avec Gary. On termine avec ça, les gars. Je veux vous remercier parce qu'on va vraiment finir avec ça. Merci d'avoir pris votre soirée. Malgré les pépins techniques qu'on a eus, j'ai dû courir. Ça n'a pas paru dans le podcast. J'ai fait du montage. Mais j'ai dû courir dans ma maison pour aller reconnecter mon modem puis faire des tests. Ça a duré peut-être 3-4 minutes, mais j'ai couru une solide shot. Merci malgré tout à ceux qui ont été là, les membres Patreon, parce qu'on n'était pas sur les pages de Sur la Terre des Hommes et de Jonathan le prof, que je vais sûrement revoir la semaine prochaine. Je te salue, mon cher. Alors, merci les membres Patreon d'avoir été là. Merci les gars. Et puis, j'espère que dans 2 semaines, on va pouvoir faire nos prédictions pour la 3e ronde. Alors, je vous laisse sur les bons soins de Gary qui a fait, dans le fond, son tirage avec une machine à boules qu'il a acheté dans une vente de garage, je crois. Alors, on se laisse là-dessus. Alors, merci à tous et à toutes et on se revoit la semaine prochaine.
Le vieux stock d'Hydro-Québec, de l'Auto-Québec.
De l'Auto-Québec. Oui, avec... alors, voilà. Yves Corbeil. Oui, voilà, alors on tourne. Alors, merci à tous et à toutes et on se revoit la semaine prochaine pour un épisode portant sur l'histoire, une page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.
Three. You can turn off the machine. 1, 3, 4, 13. Scott? Montreal. Montreal. My, oh, my. Okay. Montreal will have the first selection in the 2022 NHL draft.